We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus, point net.
Refoule-lui les poulpes, les poulpes.
Donc, c'est le retour là. Pour nous qui sommes encore là, c'est un peu bizarre de reprendre comme si on venait d'arriver. Mais c'est pas grave parce qu'on est avant tout à votre service. Enfin, là, ce que vous venez rater, c'était du lourd hein, parce que comme on a dépiauté les PDF de la V7 en direct, n'est-ce pas, messieurs?
Et avec quel plaisir.
Car j'ai qui autour de moi, autour du microphone? J'ai Curtis, j'ai Desprite et j'ai Sergissant. Vous êtes prêts, messieurs?
Yo!
West Coast, représente!
West Coast!
Ouais, fun glue, frère!
Ouais, allez, profond et profonde! Tout ça!
Oui, car on prend cet air un petit peu hébété et complètement stupide, voire même, pour introduire ce podcast fort intéressant sur nommé, fort adroitement, Pimp My Pulp. Le but étant de rendre jouable ce qui ne l'est pas. Alors là, tout le monde va s'offusquer, genre tu ne peux pas dire que quelqu'un qui a travaillé sur un scénario, qui est amateur, qui a passé des heures, tu peux pas lui dire que son bateau c'est pas jouable. Si.
Il a au moins le mérite d'exister.
Il existe, ça je ne lui reproche pas. Et je remercie tous les gens, et c'est très très rare que sur toi qu'on ne publie pas, mais. En tant que MJ, en tant que gardien, il y a peut-être des scénars que je ne sens pas. Eh ben, grâce à la team Poulpique, ce soir, vous allez tout kiffer. Même le scénar tout pourri, tout linéaire, où ça se voit dès le début qui c'est le méchant. Eh ben, même ça, même la maison Corbite 2.0, elle va péter. C'est...
Pas de rime.
C'est carrément le extrême makeover de Rillier, quoi. Donc voilà. Donc l'idée c'est un peu ça, c'est de comment rendre pour soi intéressant et jouable quelque chose qui ne l'est pas de base. Alors forcément, on est une équipe, hein, c'est un peu comme les chiffres et les lettres, hein. Il y a Maître Capello, il y a celui qui s'occupe des chiffres et tout, donc je leur ai demandé de poser les idées sur un bout d'internet. Donc forcément, ça a un peu bloqué internet, hein, parce qu'on en est quand même déjà à environ 3 pétaoctets de données. Et encore, je leur ai demandé de faire ça par puce uniquement, hein. ils n'ont pas dilué leur dire. Mais donc le fait est que, non, je plaisante, on a posé pas mal de choses, mais je me permets, alors après j'impose rien, mais je me permets un peu de recentrer. Moi l'idée que j'avais derrière c'était vraiment ça, c'était, je lis un scénario, il y a des trucs qui me chiffonnent, mais j'ai envie de le jouer. Et j'ai pas envie de tout refaire, j'ai pas envie de tout changer, j'ai pas forcément des tonnes d'idées, mais la trame est là, il y a un bon PNJ, le cadre est sympa, j'aime bien comment c'est écrit, j'aime bien le nom d'un PNJ, j'aime bien les plans. Voilà. Ouh, il y a plein de choses que j'aime, mais il y a un petit truc qui me fait chier. Un nom de personnage.
J'ai la police de caractère.
Voilà, bon là ça va être un peu plus chaud, mais. Mais oui, voilà un peu l'idée. J'ai commencé à le lire, et j'arrive pas à me projeter dedans. Donc voilà un peu l'idée, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté.
Ouais, ça nous arrive à tous. Hein.
Voilà.
C'est le problème qu'on rencontre tous à un moment donné. Hein.
Voilà, on n'arrive pas. On lit le scénar et puis on se dit ouais, non, ça va pas prendre. Parce que y a vous, il y a votre équipe. Ouais, vous vous dites non, là, le lancement de l'aventure. Putain, je l'aurais déjà fait la dernière aventure. Ça va pas tenir. Ils connaissent. C'est éculé comme truc. Éculé, attention. Éculé, libéré. Donc, ah oui, parce que si vous étiez dans le précédent podcast, j'ai déjà chanté. Donc voilà un peu l'idée. Alors, comme d'habitude, les gens qui travaillent avec moi, qui sont eux consciencieux, ont fait un plan, ont posé des idées, et moi j'arrive avec mon esprit dans le mode n'importe comment. Donc, on va essayer de s'ordonner en parlant, mais j'aimerais faire un petit tour de table. De table virtuelle Poulpique, pour qu'on donne chacun deux éléments qui font qu'un scénar pue du cul pour nous. Donc moi je vais commencer, j'en donne un, ensuite je passe la parole à quelqu'un qui en donne un, qui passe la parole au suivant qui en donne un, et ainsi de suite on en donne deux. Donc moi, première chose, je vais prendre le plus classique, linéarité, le scénar est linéaire. Et ça me fait chier, ça coule de source. À toi Sergissant.
La rencontre des joueurs qui est toujours très compliquée à mettre en place.
Tu passes le microphone à qui?
Tiens, Curtis.
Moi, ce qui me gêne, c'est les incohérences, en fait, ou les trucs faibles. Tu sais, tu tombes toujours sur un scénar où il y a une espèce de truc où ça tombe à plat. Enfin, voilà, les trucs, soit les trucs incohérents, soit les trucs où tu sens que le type qui a écrit, il n'est pas allé jusqu'au bout de son truc.
Deck, tu passes le mic?
Ouais, vas-y, laisse parler.
Ouais, alors moi, un truc qui me saoule direct, c'est les scènes too much. C'est-à-dire que je lis le scénario, il est plutôt sobre et il y a une montée en progression, et tout d'un coup, on se rend compte que derrière chaque plaque d'égout, il y a un dôle, derrière chaque mec bizarre, il y a un sac de chagaille, et tout le monde veut nous tuer. Et les scènes too much, ça écorne mon plaisir. Et bon pour la suite.
Yes! Moi, ce qui peut me bloquer aussi dans un scénar, c'est le manque de description. C'est-à-dire que il va y avoir un plan de la maison. Voilà, j'aime bien improviser, des descriptions, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on me donne quelques touches, quoi. Il faut qu'on me dise la maison est en bois, la maison est de style victorien, la maison est de style romain, la maison se trouve là. Enfin, il me faut des touches. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de scénarios, c'est souvent rédigé par des gens qui l'ont joué. Ils avaient l'idée dans leur tête et ils n'ont pas retranscrit finalement ce qu'ils ont écrit. Je demande pas une grosse description, mais je veux du biscuit, quoi. Je veux des mots. À toi, The Sprite, retour.
Ouais, alors il y a un deuxième truc qui me saoule, c'est quand on n'a pas assez de prêts à jouer. Quand le scénario il va pour eux, quand il va falloir rechercher ou bosser en plein pendant la maîtrise. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on me donne des listes de noms, des photographies, des documents, des anecdotes sur les personnages, des 3-4 mots pour bien interpréter mes PNJ, du prêt à jouer. À toi, Sergissant.
Tu parlais de prêt à jouer, il y a toutes les aides de jeu aussi. Alors, parfois, justement, il n'y en a même pas. Et parfois elles sont un peu légères, photo refaire, reprendre, c'est quand même pas mal de boulot, donc ouais, des aides de jeu qui sont pas super. Et toi, Curtis?
Moi, ce qui m'agace, c'est quand les scénarios sont pas bien ancrés, tu vois, quand le contexte est pas bien planté, ou même quand dans l'intrigue ça remonte pas assez en arrière, t'as l'impression que la situation tombe comme ça de nulle part. J'aime bien quand c'est pas ancré, bien ancré géographiquement dans l'histoire, etc. Quand t'as l'impression que le scénar est, voilà, sort de nulle part, ça me...
Bon, bah c'est super ça. Putain, voilà. Un petit tour de table et on a déjà 8 pans qui, pour moi, ils se défendent tous, quoi. C'est vrai que c'est tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit me paraît assez juste. Ça va pas nous obliger à balancer le scénar parce que voilà, ça peut être très bien ancré, très profond et tout, comme tu dis, Curtis. Et puis, les PNJ être des espèces de mauviettes au travers desquelles on voit complètement et qui font n'importe quoi. Enfin, voilà. Ou alors, une super intrigue, mais alors qui débute par une introduction complètement pourrie. Genre, bon, vous avez une lettre de votre grand-tante.
Donc, la 47e.
Voilà, donc l'idée, alors ça va peut-être prendre du temps, je sais pas trop combien de temps on va prendre ce podcast, mais l'idée, ça va être un peu de parcourir ces idées et finalement de se dire est-ce que c'est vraiment bloquant? Et là, même Pimp My Poulpe n'arrivera pas à vous sauver. Ou est-ce que finalement, avec un tout petit quelque chose en plus, avec quelques petites modifs, on peut tout faire couler, on peut retourner la chose? Inverser la tendance, par exemple. Enfin, je donne un exemple juste comme ça pour lancer, mais se dire, bah voilà, vous recevez une lettre de votre tante, tout le monde se met autour de la table. Bah, par contre, faut aller à la poste, parce que voilà, c'est les postes restantes, elle connaissait pas votre adresse, et là, le scénar part à la poste, au moment où vous arrivez à la poste. Il se passe un truc, le mec prend la mauvaise enveloppe, il y a quelqu'un qui prend un colis ou qui pète un câble à côté de lui, ou il est témoin de quelque chose sur la route pour aller à la poste. Voilà l'idée de Pimp My Poulpe, c'est de se dire, on va pas vous donner les recettes pour... Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, de ce que je viens de dire.
Mais déjà, c'est un truc qui est impressionnant, c'est que ça surprend. Et c'est,
voilà.
C'est aussi ce qu'on demande à un scénar, c'est... on a tous nos idées, nos a priori sur un scénar de Cthulhu, un scénar de n'importe quoi. Et justement, qu'on nous sorte un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, ça c'est bien.
Ouais, voilà. Prendre le contre-pied, surprendre les joueurs, c'est toujours très efficace.
Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer quand même par la première chose qui, quand on commence à lire un scénar, peut ne pas nous brancher en dehors du titre. Alors le titre, hein, on vous rappelle, il est fortement déconseillé de donner les titres des scénars à vos joueurs. Hein. L'attaque des Chantak venue du manoir au fond à gauche, forcément ça peut les aiguiller. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Donc le nom du scénar, on s'en bat un peu les rouleaux et à la limite ça peut être marrant. La preuve, on a appelé le podcast Pimp My Poulpe et vous l'écoutez quand même. Mais la seconde chose après l'accroche, après le titre du scénar, ça va être finalement l'accroche de départ, c'est-à-dire comment les personnages, comment le scénar va vous indiquer comment introduire vos personnages. Est-ce qu'il se base sur des personnages existants? Est-ce qu'il a des pré-tirés? Comment il fait finalement pour se lancer? Alors, je vais vous laisser un peu la parole parce que sinon les gens sur internet ils vont dire que bon, ils se la pètent et ils saoulent tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. J'ai une accroche. On va dire, allez, pour ne pas froisser les sensibilités, on va dire elle est un peu plate. Je la sens pas, je l'ai déjà faite. C'est de l'archi connu. Ça va mettre des plombes. Je connais mes joueurs, ça va mettre des plombes avant que ça se lance. Ou alors j'ai Maurice le casse-couille qui va me dire ah mais c'est complètement incohérent, je vois pas pourquoi je devrais les suivre. Messieurs, que faisons-nous? What we do? What do we do?
J'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est un scénar qui veut faire un intro à d'autres choses, une petite campagne ou autre? Ou est-ce qu'on reste sur un truc complètement basique, one shot?
On va se dire que c'est un scénar indépendant, ou alors le premier scénar d'une campagne. On va dire c'est, on va parler vraiment de la mise, le pied à l'étrier quoi. Le scénar, un scénar standard, un truc tout seul, genre la maison Corbett ou quoi que ce soit, des trucs comme ça, ou voilà, le mystère du Lockheim, ou l'intro nous paraît voilà, super connue, super déjà faite. Qu'est-ce qu'on a comme idée pour renverser la tendance quand l'accroche est pourrie, messieurs? Je vous écoute.
Je dirais qu'on peut déjà peut-être partir. Excuse-moi, vas-y.
Je t'en prie, vas-y.
Curtis.
On peut peut-être déjà partir au-delà du concept de perso, c'est de se dire est-ce qu'on peut pas créer un groupe en fait. Il y a déjà la simple
première chose.
Chose là, c'est que on parle d'un concept de groupe au lieu de partir d'un concept de perso isolé. Quoi.
Donc première idée, les gens se connaissent. Donc option les gens qui se connaissent, c'est ils sont dans un groupe. C'est ça que tu dis.
Par exemple, ouais. Créer un concept de groupe. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille. La famille, c'est important. Ils sont de la même famille. Ça peut être un concept de groupe. Des relations. De travail. C'est un meeting de travail, ils sont tous... Là, nous sommes d'accord, ça peut vous obliger à un peu soit guider la création, soit faire des pré-tirés. Attention. Mais là, on n'est pas au moment où vous êtes devant vos joueurs, vous êtes à la préparation du scénario, et vous kiffez pas. Donc, concept de groupe, bien sûr, vous le verrez dans la V7, comme on en a parlé dans le précédent, il y a aussi les groupes plus orientés, je dirais, poulpe, c'est-à-dire des gens de la bonne société ou autres qui se regroupent pour résoudre des énigmes et qui, pour une fois, vont tomber sur de vraies énigmes. Qu'est-ce que vous avez comme d'autres idées?
Ouais. Juste pour revenir sur la famille, il y a des trucs très pratiques qui permettent de mettre des liens de proximité, des liens familiaux entre les personnages. C'est par exemple, si on fait des pré-tirés, c'est mettre le même nom de famille à la plupart des personnages. On peut aussi avoir si vous faites vos fiches de personnages avec d'autres, enfin avec vos joueurs, c'est de les faire individuellement et de leur imposer le nom de famille.
C'est pas mal, hein. Comme ça quand ils se mettent à côté, mais tu t'appelles aussi.
Ouais, exactement. Mais bon, c'est peut-être un peu prévisible. Sinon, après, il y a aussi la possibilité de jouer sur les dates de naissance. Si, par exemple, les gens sont frères jumeaux, s'il y en a qui sont frères jumeaux, ou s'ils ont tous vécu, dans un orphelinat, ou
concept de groupe, tout à fait.
Des choses qui les rapprochent sur leur histoire familiale. Ça, c'était la petite idée assez concrète.
Ou même, ils sont tous passés à un moment donné. Bah alors, là, c'est le point focal, c'est pas forcément un groupe, mais ils sont tous passés dans un même hôpital.
Ah, exact. Donc, ils ont tous la même date sur une fiche d'admission dans un hôpital.
quelque chose comme ça.
Quelque part, ouais.
Après, ça peut. Après, vous pouvez être Whistler. Hein. Je sais pas si vous avez vu le film Mort à l'arrivée ou je sais plus. Non, je sais plus. Enfin, un super film. Ils ont tous été empoisonnés.
Ça, ça. Ah, ils, ont, ouais. Ils ont fait la guerre. Ils ont tous fait la guerre.
Ouais. Ils ont tous fait la guerre.
Ouais, quelque chose qui les soude par opposition, quoi. Ouais, ouais.
Exactement.
Oui, la guerre de 14-18. T'as raison. Tu peux un peu développer parce que c'est vrai que c'est un bon ressort vu l'époque. Hein.
Carrément, surtout que ça peut impliquer à pas mal de types de personnages différents. Donc, t'as les soldats en eux-mêmes, après, tu peux avoir des familles, quoi, la mère de famille qui a perdu son mari, tu as les infirmières, enfin, t'as tout un tas de.
Et puis, pour se retrouver à la sortie de la guerre de 14-18, 4 ou 5 du même bataillon encore vivants, je te raconte pas les liens que tu dois avoir parce que il y en avait pas beaucoup. Donc, ça, très bonne idée, voilà.
Après, ça peut être aussi des activités professionnelles qui les lient ou des hobbies. Ils aiment tous, ils ont tous une marotte, ils collectionnent tous quelque chose. Ou ils
donc
aiment
là,
tous
on,
faire du
on,
ciné.
Va on va peut-être partir là, plus sur le lieu.
Par exemple.
On peut partir sur un lieu. C'est-à-dire qu'on va les réunir dans un lieu qui est lié à leur passion commune ou des choses comme ça, c'est ça?
Je pensais vraiment une marotte, tu sais. Par exemple, ils collectionnent tous des vieux livres.
Ouais, mais il faut qu'ils se retrouvent, donc c'est peut-être un salon.
À une vente aux enchères.
Vente aux
enchères, ils veulent tous acquérir le même livre.
Vente aux enchères, super. Ouais, ouverture d'un testament.
C'est plus délicat aussi à gérer ce genre de choses, dans le sens où c'est pas aussi évident, je dirais, d'un premier abord. C'est-à-dire que ça, ils vont s'en rendre compte après avoir joué.
Tu veux dire?
Moi, j'ai fait le truc sur les, par exemple, sur les oripeaux du roi. Où j'ai imposé que tous les joueurs aient un lien avec l'art. Et en fait, c'est au bout de peut-être un ou deux scénars qu'ils se sont rendus compte que tous avaient aussi ce lien et que tous étaient affectés par l'art. Enfin, alors, leur art
là,
était affecté là, par le parce qu'il était...
Là, attention, là, ce qu'on donne comme idée, c'est vraiment pour le lancement. C'est-à-dire
voilà,
que...
c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer pour un lancement.
Ils sont tous cinéphiles et ils vont dans une salle pour voir une projection.
Voilà, ils sont amateurs de faire tourner les guéridons,
ouais,
une petite soirée.
Ça, c'est une super bonne idée.
Ouais. Ça, c'est... Si vous connaissiez pas le scénar, il y a un scénar dans les Sacrements du Mal qui est démentiel là-dessus. Je peux pas vous dévoiler l'intrigue, j'ai trop envie, mais elle est énorme. Si vous arrivez à vous le procurer, c'est énorme. Ça s'appelle Les yeux d'un étranger, je crois, ou un truc comme ça. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il peut... Alors, là, on est d'accord, on prend à différents niveaux la main sur la création des personnages. C'est-à-dire que soit on l'a vraiment poussé, la création d'un personnage type, enfin on les a aidés à créer, soit dans leur background on rajoute quelque chose de forcé. Est-ce que vous avez des idées, messieurs, de quelque chose qu'on n'aurait pas forcé et qui les ferait finalement se rencontrer de façon inopinée? Alors, à part se rencontrer de façon inopinée, mais pour lancer une aventure. Un truc où vraiment on n'a pas touché au perso.
Bah on joue sur l'adversité. Ils subissent tous quelque chose qui vient de la même source.
Donc moi, j'ai un exemple typique, c'était dans le scénario de Tristan Lhomme, la maison reste ouverte pendant les travaux, je crois, où ils sont tous arrêtés par la Gestapo.
Ouais, par exemple.
Et vous vous retrouvez tous dans le même panier à salade. Et c'est parti, ça crée des liens. Moi je l'ai joué, ça crée vachement de liens.
Là tu dis un truc qui est assez important, c'est que ce lien là il doit être si on veut créer, on crée du lien entre les personnages, mais l'intérêt aussi c'est de créer du lien des personnages vers le scénario. C'est-à-dire que là c'est un événement, un événement du scénario tout au début qui donne le lien, mais ce lien là c'est très intéressant quand la thématique, l'intrigue raccroche les PJ au scénario lui-même.
C'est très juste. Il faut pas non plus que l'événement soit juste posé là et que c'est très intéressant ce que tu dis et que finalement on passe à autre chose après parce que il y a beaucoup de vos joueurs qui vont peut-être pas comprendre. Genre vous commencez par une soirée mondaine ou je sais pas un vernissage et puis finalement le scénar c'est pas du tout sur l'art ou quoi que ce soit. Oui et non. Est-ce que ça va tenir? C'est pas sûr. Alors que si par contre votre scénar est basé sur l'art, oui, la première exécution par un orchestre d'une symphonie ou tout à fait moderne, ou je sais pas, voilà, le vernissage, ou l'ouverture d'un nouveau musée, ou des choses comme ça, si ça amène dans le scénar, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus fluide. Si c'est vraiment posé là, ça fait un petit peu genre j'avais pas d'idée, je suis allé sur Toc, et puis j'ai pris une idée sans vraiment sans vraiment relier l'idée de départ au scénario, quoi. Faut pas que ce soit une scène posée comme ça.
Ouais, dans l'Orient Express, par exemple, dans Terreur sur l'Orient Express, l'espèce de conférence interminable et sans intérêt qui finalement, au-delà de rassembler les gens, de rassembler les gens demanderont.
Un truc con, ils sont tous dans le même wagon.
Oui.
C'est bête, ok. Mais ça peut arriver. Tous dans le même wagon.
Le lieu, généralement le lieu de départ, est aussi très intéressant parce que ça va donner une petite idée déjà d'où on va pouvoir aller. C'est-à-dire que si on commence dans un resto chic, je prends les manteaux noirs que j'ai fait jouer là, un resto chic, on va pas pouvoir aussi avoir, on sait qu'on va pas partir sur un truc ouais. où on va aller voir que du clodo et du hobo local, on va rester dans les hautes sphères.
Ouais, tout à fait.
En tout cas, on peut s'y attendre. Ouais.
Ça peut être la réunion, quand tu parles des hautes sphères, ça peut être la réunion d'un homme politique, l'ouverture d'un orphelinat. Ça peut être des trucs tout chelous.
Un truc énorme, imagine-toi. Bon, il faut des joueurs qui assurent derrière, mais on commence sur un discours de félicitations. Et tous les joueurs, les uns après les autres, doivent dire un petit mot pour féliciter une personne. Et tu les prends comme ça au dépourvu. Et là, tout d'un coup, la poursuite s'allume, la lumière dans le visage. Devant toi, il y a 400 personnes. Ta-da. Le micro siffle légèrement. C'est à toi de parler. Vas-y.
Desparade.
Mais ça, jeter les joueurs dans l'action, c'est aussi génial façon à Star Wars. Quoi. La scène d'ouverture, c'est un truc. Voilà, c'est leur personnage. Ils sont déjà dans une scène d'action. Ils sont canardés. Ils reçoivent des bombes.
Curtis, garde ça sous le coude, c'est énorme. Juste une chose. Je pensais à ça, c'est l'entretien d'embauche, comme dans les montagnes
d'Alchimie. Ah ouais. Ça, c'était puissant, ça, c'est vrai.
Vous pouvez pas le faire 20 fois, mais voilà, vos joueurs, vous les passez un par un, c'est un entretien d'embauche pour une expédition, une mission, un truc particulier. Et puis voilà, là, ça les soude, mais on en revient au fait qu'ils viennent d'une même expédition. Par contre,
alors,
ce que t'as dit, Kurt, vas-y, excuse-moi, vas-y, Sprite.
Je voulais juste dire, je sais pas si vous vouliez venir, mais sur le doc qu'on avait fait, Dark Keeper avait pas mal bossé au niveau des lieux, et il avait sorti des idées assez intéressantes, du type, on commence juste après un naufrage, ou juste pendant un naufrage,
très bon.
Échoué sur une île, ou bien Lost. On se réveille dans un lieu désert, et on sait pas comment on y arriver, bon, ça commence un peu à devenir... un truc classique, même si c'est insolite, mais ça fonctionne toujours. Ou bien on se réveille enfermé. J'ai le souvenir d'un scénario de Cops, je crois qu'il avait été écrit par un particulier, dans lequel on commençait dans un charnier, et qui se trouvait dans un immeuble dont les étages étaient effondrés, donc impossible d'en sortir. Bon, alors, pas forcément pour Cthulhu, mais ça peut être une idée.
On peut se retrouver à l'intérieur,
pour le coup. Voir pour le coup se réveiller sans souvenir dans un lieu avec les mecs qui sont autour et qui sont dans le même cas que nous.
Exactement. Comme façon Cube un peu.
Ouais.
Ouais,
exactement. Et il y a aussi justement tout de suite la question intéressante du huis clos. Parce que avec cette première scène, on peut tout de suite donner le ton. Est-ce qu'on va être en huis clos? Est-ce qu'on va être dans un scénario géographiquement plus étendu? Ça permet de tout de suite donner le ton.
Ouais. Et alors là, je rebondis sur ce qu'a dit Curtis, parce que si vraiment vous n'avez pas d'idée, ou si vraiment vous voulez vous gaver et faire un truc de ouf, le premier cas, c'est que vous n'avez pas le temps de le préparer. Le deuxième cas, pour faire un truc de ouf, c'est que vous avez préparé. Vous vous faites un truc à la Star Wars. C'est-à-dire que vous commencez votre scénario par une scène où sont pas vos joueurs. Une autre scène. Une scène avec des PNJ. Une scène n'importe où. Enfin, une scène en lien avec le scénar. Mais par exemple, je me rappelle, bah, c'est encore du Christian Grussi, c'est quand il était sur Archaos, où on commence par décrire un oiseau qui plane au-dessus des montagnes, et puis on commence à décrire les montagnes, il se rapproche, et puis on voit qu'il y a une espèce de petite formation rocheuse. Ah non, c'est pas une formation rocheuse, il descend en faisant des cercles, et finalement c'est une espèce de temple en pierre, et apparemment il y a des gens qui sont attroupés, et tout ça, et hop, vous décrivez une scène. Les joueurs sont complètement, passifs. Et le fait est qu'au moment... Alors, vous faites ça avec de la zik, vous faites ça avec des bougies, vous faites ça avec des projections de photos, si vous aimez ça. Enfin, vous faites ça un truc un peu péchu, quoi. Un truc à la... pendant. Moi, j'appelle ça un truc à la pendant ce temps sur l'étoile noire. C'est-à-dire que c'est pendant ce temps sur l'étoile noire, ça peut tout à fait être la fin du scénar. Genre... Ils ne découvriront jamais que... Enfin non, là je vous fais un truc à la con, mais qu'on se cache sous l'église. Mais un truc qui vraiment balance la sauce, et à ce moment-là, vous passez sur vos joueurs, et là, vous pouvez les foutre dans n'importe quelle situation. Car de fait, comme vous avez déjà lancé l'action et vous avez déjà lancé des choses, il faut bien sûr avoir mis un petit laïus descriptif des personnages sur leur feuille de perso. Mais franchement, ça part, mais nickel. Parce que, en réalité, vous avez déjà lancé l'action. Vous êtes déjà en train de... je sais pas, par exemple, ils jouent des flics, et vous décrivez ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Vous commencez à décrire les mecs qui sont en train de se barrer ou quoi que ce soit. Et là, vous dites, ok, bon, maintenant c'est à vous, vous êtes donc devant une porte, machin, et vous entendez une espèce de murmure derrière. Et là, les mecs, ils vont faire tilt, ils vont faire, putain, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ils sont en train de se barrer, merde. Et là, bah, vous n'avez pas besoin de dire, eh, votre tante, au fait, elle vous a envoyé un message, vous voulez pas les voir. Non, ça pète, ça claque. Et enfin, est-ce que c'était à ça que tu pensais, Curtis?
Alors, ça peut être intéressant, ouais, ça c'est très intéressant. Tu montres une scène qui. Voilà, au premier abord, a pas grand-chose à voir, qui peut ne pas avoir grand-chose à voir avec ce qu'ils vivent, et tu mets après quelque chose, tu les fais basculer, enfin tu fais basculer le début vraiment du jeu avec une scène qui est très contrastée, par exemple, tu décris ta scène où t'as ton oiseau qui s'approche d'un temple, et là t'as des sectateurs qui font des rituels, etc. Et donc il se passe des trucs terribles, etc. Puis hop, tu fais comme un fondu au noir, et puis tu te retrouves dans un petit salon londonien où les gens doivent être brandis, etc. L'effet de contraste peut être.
Et puis tu peux partir à une scène à Indiana Jones quand il est dans le bar asiatique. Ouais. C'est-à-dire, tu peux carrément partir, tu lances la musique et tu dis bon, tu prends le nom du personnage, genre le plus un peu fier à bras de l'équipe et tout. Genre, je sais pas, il s'appelle Marcel Duglan. Bon, alors Duglan, non, ça marche pas trop là. On va dire Watson, on va l'appeler. Bon, Watson. Mon pote, il te refrappe ou tu nous dis enfin où t'as planqué l'idole? Voilà, et hop, on sait qu'il y a une idole, on sait qu'ils l'ont planqué. Vous décrivez un petit peu rapidement avant l'établissement. Ils sont dans un espèce d'endroit, dans une petite alcôve, dans une espèce de bar un peu louche. Ils se rappellent plus trop pourquoi ils sont venus là. Ils sont quatre. À part Watson, les trois autres sont les mains attachées dans le dos. Ils ont la lèvre un peu tuméfiée, la cravate de travers, quelques taches de sang sur leur veste, enfin sur leur chemise, la veste un peu débraillée. Et en face d'eux, il y a une espèce de type avec des moustaches à la Fu Manchu, entouré par des espèces de gorilles aux mains de la tête de ma mère. Et voilà, ils sont en train de se faire bastonner. Et hop, ça part. Alors tu nous le dis, et là il faut que le joueur il improvise, il va falloir qu'il se sorte de la situation. Et les autres vont l'aider.
Pour même aller plus loin, on peut partir sur, c'était l'intro du Taroticum, où on a carrément une scène où on n'est pas du tout nos personnages, c'était dans une prison qui littéralement descendait en enfer, et en fait on commence, on a tous fait ce rêve et on est devant la prison quoi. Et on a tous les mêmes pépins en se disant, Peter, où est-ce qu'on met les pieds? Parce que je sais que ce truc-là, de ce que j'en ai vu, ça schlingue, quoi.
Et maintenant, pour revenir sur ce que tu avais proposé, bon, avec l'histoire du vous lâchez la sauce, ou bien sinon mon pote vous marave, on pourrait même faire un cadre encore plus marrant dans lequel une moitié de la table joue les gens agressés, l'autre moitié de la table joue les agresseurs, mais un peu bon enfant, tu sais, juste des brutes un peu bêtes, et ils sont justement en train de faire cette scène, et là, une troisième adversité, mais encore bien plus fort, débarque, et ils sont tous obligés de se souder les coudes pour éviter de crever, quoi.
Exactement. Mais c'est, enfin, là, franchement, vous avez fait une pléthore de ils peuvent même, je sais pas, on peut inventer des trucs qui peuvent passer au milieu d'un tournage de film sans s'en apercevoir. Se retrouver dans une course poursuite, alors c'est une fausse course poursuite et puis machin. Enfin, l'idée, c'est de voir quel est le thème du scénario que vous allez jouer, parce que on vous rappelle que vous avez déjà un scénar, et de vous dire. Je vais essayer d'en extraire des éléments pour finalement les amener au scénario, au thème, au ton, au lieu, mais d'une façon originale. C'est-à-dire voilà, si le lieu est vraiment paumé, et puis on peut penser à des choses actuelles. J'ai des trucs à la con, mais ils peuvent tous se retrouver. Ils ont fait un blablacar et ils sont tous dans la même voiture. Et puis, je sais pas, ils tombent en panne au milieu du Larzac, zone blanche, plus de couverture 4G. Voilà, bon. Mais non, mais c'est des trucs à la con, mais il faut penser aussi actuellement. Enfin, ça peut être des trucs dans le futur. Ils peuvent faire partie d'une équipe. Ils peuvent. Enfin, ils peuvent être amnésiques. Ils peuvent. Ils peuvent se croiser chez un docteur, ils peuvent se croiser. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai le ton, j'ai le thème un peu du scénario, je vais essayer de caler quelque chose qui. Soit le scénar est calme, je vais mettre quelque chose qui pulse au début, soit le scénar pulse et je vais mettre un truc un peu calme au début pour qu'ils se connaissent. Mais très certainement, il va falloir les mettre en situation, je vais pas dire violente, mais il faut quand même une mise en situation péchue. Parce que. Les mises en situation douce, calme et vraiment trop tranquille, c'est ce qu'on connaît tous. C'est la lettre, c'est un des PJ qui doit réunir d'autres PJ, et comme par hasard, il appelle les autres PJ, et nanana, venez m'aider, j'ai une affaire que j'arrive pas à résoudre. Enfin voilà, des trucs. Et c'est enfin, on tombe très rapidement dans des classiques. Mais et puis, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que prenez une scène et retournez-la. C'est-à-dire, imaginons, je sais pas, ils vont à un enterrement et
bah, la le personne prêtre se fait sniper.
Ouais, ou la personne qu'ils enterrent, finalement, on entend des bruits au niveau du cercueil. On dit merde, putain. Alors après, c'est pas du tout pulpique forcément, mais voilà, le mec qu'on enterre était pas
le
mort.
Le mec qu'on enterre, c'est un des joueurs.
Ça serait une super idée. Ou même quand on parlait de la scène avec le mec qui se fait bastonner dans l'espèce de bar parce qu'il faut parler. Première scène, vous butez. Alors, essayez de prévenir peut-être le joueur avant, ou même pas, voir sa tête, vous le butez. Alors les deux, alors les trois autres, vous allez le dire, et puis les mecs ils savent pas, vos joueurs ils savent pas, ils vous l'auraient pas dit. Bon alors, allez où l'idole, le prochain qui y passe c'est toi, à droite là, au lieu de te marrer comme un con. Allez, et puis là les mecs ils vont inventer, et puis là c'est parti. Alors après, ok, hein, ça donne des scénarios un peu qui vont être assez typés.
16 secondes.
Regarde mes doigts, 3. Non mais je pense qu'on a fait une bonne liste. Est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent pour lancer?
Je crois que c'est un truc qui peut être vraiment aussi intéressant. Ça peut être plutôt que de plonger les gens dans l'action, ça peut être aussi de tabler sur quelque chose d'extrêmement roleplay où les gens vont vraiment faire une espèce de peut-être de petite tranche de vie où vraiment ils vont devoir donner leur personnage, tu vois, exprimer d'emblée quelque chose d'essentiel de leur personnage. Ça peut être sympa aussi
dans la ligne du recrutement un peu qu'on a cité tout à l'heure.
Exactement.
Mais il y a d'autres scènes dans lesquelles effectivement les fiches vont s'effacer et on va être plus dans l'interprétation, quoi. Bon, on m'avait fait une intro. C'était une intro séquentielle, c'est-à-dire que le MJ passait de joueur en joueur et faisait une toute petite scène d'intro qui les mettait en valeur l'une après, les uns après les autres. Et j'ai un souvenir assez ému parce que quand il est passé sur moi, il m'a demandé de dire quelques mots sur le cours de botanique que j'étais en train de donner à mes élèves, façon Indiana Jones. C'était vraiment super. Et il a fait ça pour tout le monde.
Une possibilité d'intro qui pouvait être assez sympa, enfin une aide d'intro qui pouvait être assez sympa sur une murder Cthulhu, où en fait on joue tous les membres de la même famille, donc déjà effectivement on est des réunis, mais pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les aspects entre les joueurs, etc., c'était on prend un des joueurs, on le met au centre, et en fait tous les autres viennent et disent deux mots sur la personne. Mais c'est réellement deux mots, c'est deux adjectifs, comment lui perçoit cette personne-là. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une reconnaissance
c'est pas mal,
des
ça.
Autres joueurs qui est assez sympa.
Ou même, on peut pousser un truc, une sorte de tribunal, et trois des joueurs doivent défendre le quatrième. Donc vous commencez en faisant une espèce de plaidoirie version la défense, quoi. Enfin version...
Objection la...
Voilà. Comment ça, objection? Allez-y, donnez vos arguments, et là, hop, vous tournez. Et je crois qu'il y a une scène comme ça dans une des campagnes de l'appel, je vous dirai pas laquelle, mais où on doit faire, tu vois laquelle c'est, et où on doit faire justement, et moi je me rappelle, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait retourné les chaises, on s'était mis à genoux, comme si on était derrière des barreaux de tribunal, et putain, mais on s'était éclaté, quoi. Et les mecs, je les avais un tout petit peu prévenus, mais pas beaucoup, et je leur ai dit, hop, c'est parti. Alors, quels sont vos arguments? Genre, puis le mec, il a fait une grosse connerie, quoi.
C'est pas un peu du méta-jeu, là, histoire des chaises.
Ah, c'est bien, t'as attendu 22h30, Curtis, pour te ramener un mot compliqué.
À propos de méta-jeu, on avait aussi une intro comme ça, dans laquelle on avait filé des pré-tirés de Romain aux joueurs. Ils savaient pas du tout à quelle époque on allait jouer. Et en fait, on leur a demandé de se mettre. On jouait à 2MJ et. On leur a demandé de se mettre tout au fond de la pièce sur des chaises, mais assis assis en formation, en fait, les uns de, enfin, ouais, en deux lignes. Et moi, j'étais derrière eux et je jouais un PMJ, donc un personnage acolyte du meneur de jeu, hein, quoi, en quelque sorte. Et en fait, je leur gueulais des ordres aux oreilles et je sifflais dans un sifflet comme un époque romaine pour leur dire ce qu'il fallait faire. Et en fait, ils interprétaient. Un début de bataille dans lequel il devait tenir les rangs et c'était super bon.
Ça peut être ça, c'est, si ça se passe pendant la guerre, comme les scénars No Man's Land et tout ça, ça peut être un briefing. C'est-à-dire vous commencez, vous baissez la lumière, vous prenez un air de conspirateur, vous pouvez prendre un fameux cigare. Bon les gars, voilà où sont les ennemis, ok? Donc on a une batterie ici.
Ah ouais, c'est parti quoi. Ou Red Surin's Mouse aussi, c'est très très
exactement. Bien. Exactement. Donc il y a quand même pas mal d'idées. Là on vous en a donné quelques-unes. Le fait est qu'après, c'est vrai, il faut que vous trouviez l'idée qui, un, vous corresponde, votre façon de jouer, et qui va correspondre, je dirais, au lancement du scénar pour pas que vous partiez non plus en cacahuète en faisant une intro
qui dépote trop alors que le scénario il est calme ou vice versa quoi.
Voilà.
Faut surtout rester dans le ton du scénar.
Oui, un truc méga Indiana Jones, alors que finalement, le scénar, c'est beaucoup plus une enquête type réflexion, un peu feutrée et tout. Non, je dirais qu'il faut quand même doser la chose. Mmh. Il faut que ça reste propre, mais voilà. Donc là, ça vous donne pas mal d'idées. Donc ça, c'est si vous avez envie de pimper le début, parce que le début vous plaît pas, ou alors vous le trouvez mou, quoi que ce soit. La deuxième chose auquel moi j'attacherais pas mal d'importance, et c'est pas forcément facile, c'est le côté linéarité. Alors, le problème de la linéarité, c'est que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que on peut très bien lire un scénario et le trouver linéaire, et finalement dans son déroulé, quand vous allez le faire jouer, ça m'est très souvent arrivé, il n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que vos joueurs n'ont pas du tout l'impression d'être sur des rails. Et finalement, vous avez réussi, en vous aidant du scénario, à amener les choses de façon, je dirais, naturelle. Mais il y a quand même des scénarios où, dans ce qu'on vous décrit, ils vont vous dire, voilà. Donc, quand ils iront chercher dans la salle de bain et qu'ils ouvriront le troisième tiroir en bas à droite, ils trouveront donc le mot du médecin avec l'adresse qui est l'inter. Et hop, le chapitre suivant, c'est chez le médecin. Chez le médecin, quand ils rentreront par effraction dans le bureau du médecin. Donc, comment faire? Voilà. Là, je prends un cas extrême, mais ça arrive. Il y en a sur TOC, il y en a partout. Et moi, le premier, je sais pas écrire un scénar, donc, mais ça m'empêche pas de critiquer. Le fait est, voilà, c'est de se dire comment rendre un scénario qui est vraiment écrit de façon linéaire et qui vraiment transpire la linéarité, comment le rendre non linéaire? Alors, des idées?
Ben, la première qui me vient à l'esprit spontanément, c'est de pas trop se baser sur les éléments trop linéaires, si c'est un problème pour son groupe, hein, mais vraiment de faire confiance à ses joueurs, d'écouter ce qu'ils ont à dire, de voir quelles pistes intéressantes ils peuvent proposer. Tiens, ben, je vais au cadastre, ah ouais, ça c'est bien, c'était pas dans le scénar, et de développer la derrière.
Donc, en fait, tu mises beaucoup sur l'improvisation autour, quoi.
Sur les idées de mes joueurs, je vais rebondir dessus, je pense que c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est très satisfaisant pour les joueurs, de voir que l'histoire se construit sur leurs idées.
Alors, dans ces cas-là, j'irais... Comment on pourrait, pour aider nos auditeurs, comment on pourrait, j'irais, les aider à un peu préparer quand même, à un peu préparer ces choses qui finalement sont pas écrites dans le scénario, mais qui seront à côté, qui vont finalement enrober le linéaire et vont le rendre moins linéaire, parce qu'il faut... C'est ce que tu dis. On pourrait dire si, par exemple, bah, tiens, on va reprendre mon exemple, il faut qu'ils aillent, ils visitent un appartement et il faut les emmener chez un médecin. D'accord ?
Il faut déjà penser à une chose, c'est qu'un joueur, c'est quand même un être vivant qui est capable de foirer largement un scénario, quel qu'il soit. Donc à partir de ce moment-là,
est-ce que c'est foiré quoi ?
Bon, oui, mais alors il y a foiré, c'est-à-dire qu'il y a foiré dans le sens où ils vont partir complètement sur autre chose, et il y a foiré dans le sens où justement ils vont pointer là où nous on n'a pas forcément réfléchi. Et c'est l'idée, ça peut être justement de réfléchir à, je dis pas à tout ce que l'on peut faire, à tout ce que l'on peut penser, parce que c'est juste pas possible.
Ouais.
Mais ce qui, malgré le côté parfois un peu original, ben au final peut-être pourquoi pas intéressant. C'est-à-dire par exemple, ils doivent aller chez le médecin. Ouais, mais est-ce qu'ils ont pas plusieurs adresses de médecins et qu'ils vont peut-être pas aller voir le bon ?
Très bonne idée.
Comment est-ce qu'ils vont faire pour aller
multiplier,
voir ce médecin ?
Très très bonne idée. Multiplier la source de médecins, très juste.
Alors, ouais. Déjà, juste une petite remarque, mais bon, c'est perso, mais pour moi, foirer un scénario, quand je dis que mes joueurs ont foiré un scénario, c'est qu'à un moment, ils ont fait quelque chose qui fait retomber le soufflet, tu vois. Du type, c'est une bande de soldats, ils sont tous super soudés, ça c'est dans leur background, et puis à la première séance à la première scène du scénar, ils vont se trouver un point sur lequel ils vont pas être d'accord, ils vont tous se friter, et finalement ils vont tous mourir dans une explosion de grenade, tu vois. Le scénario aura été foiré, pourquoi ? Non pas parce qu'ils ont pas exploré les scènes que j'ai prévues, mais parce que finalement personne se sera amusé, ça aurait fait un flop. Et pour moi, c'est vraiment ça, foirer le scénar. C'est vrai que.
C'est que les gens s'amusent pas, en fait, c'est ça.
On a tendance à se dire que lorsqu'ils n'explorent pas.
S'amuser sur à faire autre chose, finalement, que le scénar. Et c'est pas pour autant que la soirée était foutue.
Non, tout à fait.
Normalement, si c'est bien fait, ça doit pas arriver.
En fait, t'as raison. Je pense que. Excuse-moi, je voulais juste terminer parce que je viens de choper l'idée au vol, je l'avais pas avant. Je pense que t'as raison, dans ce que j'ai dit, je pense que je confondais scénar et partie. En fait, le scénario est écrit et prévoit des choses à l'avance. La partie, elle, c'est ce qu'on en fait.
Ouais.
Et
l'idée est bonne pour revenir sur ce que tu disais, s'agissant, c'est de se dire, voilà, eh ben, ils vont pas tomber forcément sur la notice du médecin ou quoi que ce soit, il y en aura peut-être en effet plusieurs, où la personne aura peut-être cherché des médecins dans l'annuaire et en aura entouré quelques-uns. Ça vous lance la possibilité d'introduire de nouveaux PNJ. Alors, il faut être clair, pour délinéariser un scénar, il faut soit préparer, comme tu disais, pas mal de choses sans trop savoir s'ils vont y aller, ou alors se préparer à être complètement, je dirais, improvisateur, comme tu disais, des sprites, c'est-à-dire avoir des listes de noms, penser déjà à des lieux, penser à des PNJ, penser à des choses. Typiquement, pourquoi aller chez un médecin, autant on pourrait leur amener, je sais pas, une boîte de pilules. Et ils vont faire des recherches, et ils vont peut-être aller voir la famille en leur disant, est-ce qu'ils vous, d'après vous, ils prenaient un traitement ou quoi que ce soit. La famille dit, va peut-être les envoyer vers le médecin à ce moment-là par rebond. Peut-être que la gardienne va dire, oui, en effet, il y avait un monsieur, un petit jeune homme qui livrait des médicaments de temps en temps. On va essayer de remonter la piste du jeune homme, puis retomber sur le médecin.
Ils vont à la pharmacie du coin.
Ils vont à la pharmacie du coin, et voilà, c'était tel médecin qui prescrivait à la personne. Où ils vont pouvoir voir, des notes de paiement à ce médecin dans un cahier de compte, dans des choses comme ça. Enfin, l'idée, c'est de s'ouvrir le champ des possibles en se disant, voilà, je sais où je dois aller. Souvent, la délinéarisation, c'est ça. Je sais où ils doivent aller. Par contre, on m'a donné un seul moyen d'y aller. Et moi, je sais que mes joueurs, ils vont peut-être pas le faire. Ils vont peut-être le faire, mais ils vont peut-être pas le faire. Et j'ai besoin d'une autre chose parce que il faut absolument qu'ils connaissent ce médecin. C'est pour la suite du scénar, c'est ce médecin qui sait des choses et
Mais finalement, c'est linéaire en fait.
C'est linéaire. Le truc, c'est qu'ils vont pas
s'en
rendre compte.
Tu parles de délinéarisation, mais en même temps, quand tu présentes le truc, on a l'impression que,
c'est-à-dire que
ça reste linéaire puisque les gens doivent aller voir le médecin.
Présenté de façon linéaire, on va dire, quand ils auront trouvé cette tête de jeu-là, ils iront chez le médecin parce qu'il y a l'adresse. Moi, dans ma façon de voir les choses, c'est ils sont dans la scène, je visite l'appartement de la personne, et il y aura une scène, je suis chez le médecin. Après, je tisse plusieurs liens entre ces deux scènes.
Okay.
Et je les oblige pas à le faire juste après. Ou des choses comme ça. Ou,
en fait, tu maquilles le mur invisible.
Je maquille. Bah oui, le but, c'est, je serais bien incapable de créer un scénario, mais de se dire, voilà, je l'enfouis sous des possibles qui font que... Et en plus, c'est bête à dire, mais pour eux, ça va rien changer. Pour les joueurs. Parce qu'ils vont choisir une des possibilités, et donc, ils vont tracer une droite. Mais la linéarité, c'est quand même, je dirais, un rendu... Enfin, quelque chose qu'on ressent en premier lieu quand on est gardien. En se disant, oh là là, mais ouais, putain, c'est cousu de fil blanc, ça va de A, B, B à C, C à D. Et finalement, c'est en masquant cette linéarité qu'on va peut-être être plus à l'aise, plus relax, et rendre le scénario plus intéressant.
C'est aussi ça, c'est en rendant les situations où tu délivres l'information, c'est en rendant ces situations intéressantes, originales, intrigantes, ou en y mettant du suspense, que tu vas... Parce que finalement, fin, si on résume, toutes les histoires ont plus ou moins toujours été racontées. Ce qui change, c'est la façon dont on les raconte, la façon dont les situations s'enchaînent les unes avec les autres, parfois pas dans l'ordre dans lequel on les attendait.
Mmh.
Très juste.
Et puis aussi, c'est plus flatteur pour les joueurs. Ils ont l'impression de faire des choix et que les choix influent vraiment sur leur scénar.
Mmh.
Alors qu'en fait, nous, on sait très bien derrière que, ouais, allez-y, choisissez. Mais en fait, vous avez juste le choix entre A et ou A.
Et si... Ah, ça me pose un problème, ça.
Deux.
Non, parce que tu leur présentes pas la même chose.
Ben, en fait, comment dire. Je vais pas dire d'honnêteté, mais c'est j'ai toujours l'impression qu'en fait dans ce modèle on garde nos joueurs et leurs personnages dans un labyrinthe de rats, tu vois.
Ouais, mais c'est comme quand tu vas au scénar, comme quand tu vas dans un manège.
Ouais. Ouais. Après, c'est vrai. Mais alors, je pense que dans ce cas-là, faudrait peut-être le Faut pas s'en cacher, tu vois. Faut peut-être dire,
non,
il y a un peu linéaire, mais...
Non, mais tu, ce que je veux dire, c'est que, voilà, quand t'arrives sur Space Mountain, ils vont pas mettre, dans 5 secondes, vous êtes de retour ici. Ils vont te mettre de la zig à fond, de la fumée et tout, et quand tu vas revenir, tu vas te dire, ah putain, j'étais là, moi.
Ouais. Mais après, il y a les bacs à sable, tu vois. Et dans les bacs à sable, tu fais pas un Space Mountain. C'est
ouais,
toute la différence entre un Space Mountain et une galerie des miroirs.
Je suis d'accord, mais c'est uniquement pour l'ego, à mon avis. Enfin, pas uniquement, mais c'est en grande partie pour l'ego du maître. Tu parles d'honnêteté.
Tu penses? Sincèrement?
Enfin, en partie. Très honnêtement, toutes ces choses-là. Parce, je dis pas que c'est que pour ça. Parce qu'il y a une partie aussi de fun. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se mettre en danger. Mais finalement, si tu te mets en danger, le but c'est de t'en sortir, et finalement, si tu t'en sors, c'est que t'as été capable de t'en sortir, donc on retourne un peu sur... Quand je dis ego, c'est pas dans le forcément mauvais sens du terme.
Mais je parle des joueurs, moi. Enfin, c'est pour les joueurs que c'est intéressant, justement, de s'en sortir. Je te cite un scénario qui, pour moi, n'est pas linéaire. Je sais pas si vous le connaissez, enfin, j'en parle souvent, c'est Sanatorium. Sanatorium, c'est une énorme boîte à outils. Tu peux faire plein de trucs, et en fait, tout dépendra de la créativité des joueurs. Et c'est ça qui me plaît, tu vois. Parce que la seule chose qui est linéaire, c'est les événements qui se passent à telle et telle heure. C'est tout.
Et d'accord.
Ils arrivent, mais on peut les interrompre si on arrête ce qui les déclenche, tu vois.
Ouais.
Mais c'est pour ça que je trouve ça génial. C'est pas vraiment pour le meneur de jeu qui va pour son ego, mais c'est vraiment pour dire aux joueurs, soyez créatifs, vous serez récompensés.
Ouais, je sais ce que tu veux dire.
Je pense qu'il y a les deux, effectivement. Il y a les deux. En fait. Il y a le fait d'avoir une structure qui est solide et autour de laquelle tu peux improviser, parce que de toute façon, tu connais bien ton contexte, si tu connais bien tes PNJ, si tu sais bien ce qui globalement se passe et doit se passer, quoi qu'il arrive, enfin, quasiment quoi qu'il arrive, tu peux broder, tu peux te lâcher. En fait. Plus la structure est solide, plus l'improvisation est facile. En fait.
Ah, et en plus, je suis d'accord. Vas-y.
À la limite, ça peut donner vraiment des choses très intéressantes, justement. Tu peux avoir un... Quand tu es joueur, de toute façon, tu ne vois pas le côté linéaire si on propose plusieurs pistes qui, au final, arrivent sur la même. Par contre, effectivement, si tu pars sur un truc qui était complètement inédit, que tu fais un truc original, c'est au jeu, après, de rebondir là-dessus et de dire « Ouais, c'était pas prévu, mais c'est intéressant, et on va développer ça. »
Alors, il n'y a,
oui,
a pas,
je suis d'accord
pas
avec
de schisme entre
l'honnêteté
du gardien et le joueur.
Je suis d'accord avec vous, mais le seul truc, c'est que finalement, c'est en multipliant les possibles que vous donnez une illusion de liberté. C'est-à-dire que le sanatorium, pour l'avoir fait jouer plusieurs fois et je l'adore, on sait quand même. On sait qu'il y a un tel qui a telle folie, on sait qu'il y a un tel qui a telle folie, on sait qu'il s'est passé ça avant, on sait qu'à la fin il va se passer ça. Mais le seul truc, c'est que comme il y a profusion, et je suis assez d'accord avec.
On ne sait pas ce qui se passe à la fin. Hein.
Non, mais on.
Si maintenant. Enfin, tu as des moyens d'éviter la fin comme elle est décrite. Hein.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, quasiment dans tous les scénars, tu n'as pas forcément de fin écrite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément des fins. Tu mets des gens sur une île. Comme ça avec un sanatorium, ils vont tous crever, ils vont tous devenir fous, ils vont s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et c'est pour ça que pour moi, se donner plein de petites idées à droite à gauche, c'est ça qui crée un peu un sentiment de liberté, de open world, comme on dit. Mais je vois ce que tu veux dire, mais finalement, si tu y réfléchis, c'est parce que le sanatorium, ok, on te décrit finalement que des situations que tu peux agencer comme tu veux, que tu peux mettre dans n'importe quel sens, mais au bout du compte, le tout est un gros tout linéaire dans lequel tu peux faire plein de petits micro-coupures, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Pour le coup, là, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment une caisse à outils qui va réagir à ce que vont faire tes joueurs. Et par exemple, je cite un personnage, je vais pas le donner son nom pour pas spoiler, mais il y a un personnage qui, vraiment en fonction de ta manière d'être avec lui, si tu es sympa, il va être sympa. Si à un moment tu fais un truc bizarre ou tu parles de certaines choses dans son background, il va commencer à devenir soupçonneux et voire franchement hostile à t'agresser au couteau si t'as pas bien perçu sa psychologie. Et cette personne-là, d'un scénario à l'autre, elle s'est sacrifiée pour sauver les joueurs, elle en a massacré un, blessé un autre.
C'est juste que l'arbre des possibilités est super vaste.
Pour moi, la linéarité implique que tu as prévu quelque chose à l'avance. Tu vois, la linéarité d'un scénario. Je parle pas de la linéarité d'une partie, hein, mais d'un scénario.
Ouais, mais alors, moi, je te rétorquerai à contrario qu'à partir du moment où tu aimes improviser, dans ces cas-là, aucun de tes scénarios n'est linéaire.
Si tu t'astreins pas à une suite de scènes préécrites.
Voilà, exactement. Mais si tu dis à tes joueurs, à plusieurs moments dans le scénario, que voulez-vous faire, sans pas du tout les guider, dans ces cas-là, t'es dans un scénario, comme tu dis, bac à sable. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, le début des masques, pour moi, si tu le décris en disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, à quelle heure vous voulez vous donner rendez-vous, par exemple, parce que l'heure est très importante. Quelle heure vous donnez rendez-vous? On est dans de l'ouverture. C'est linéaire parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Et par contre, c'est ouvert, comme tu dis, parce que en fonction du choix qu'ils vont faire sur l'horaire et sur comment ils vont réagir à la première scène, les possibilités sont diverses.
Je pense qu'un scénario, en fait, je sais pas si je fais une synthèse, mais je pense que la plupart des scénarios qui nous ont bien plu, ils mélangeaient les deux. Il y avait des moments de linéarité. Et il y avait des moments de liberté. Et, sauf peut-être certains ovnis, comme par exemple No Man's Land officiel des cartes, qui est entièrement linéaire, mais qui est ultra fun.
Mais c'est pour. Ouais, c'est le but. En réalité, c'est un peu. C'est un peu schizophrène ce que j'ai dit. Parce que moi, il y a énormément de scénarios que j'ai lus que je trouvais linéaires. Alors après, mes joueurs, ils me disent ce qu'ils veulent, mais j'ai jamais l'impression d'avoir. Jouer, enfin d'avoir maîtrisé un scénario de façon linéaire, quel que soit le scénario.
C'est vrai qu'il y a l'aspect un peu
théâtre,
décor, carton-pâte en fait, qui est important dans le rôle, c'est que quand c'est mis en scène, c'est plus la même chose en fait.
Exactement. Pour moi,
tu veux dire diriger,
le meilleur conseil, c'est
ouais.
Si vous pensez que le scénario est linéaire, allez-y, vous verrez. Alors, il faut être un minimum un gardien un peu aguerri, un peu improvisateur, mais
réactif.
Voilà, exactement. Si vous êtes dans ce cas-là, aucun scénario n'est linéaire. Même le scénario où on vous décrit qu'il faudra qu'ils trouvent la petite note pour aller chez le médecin, bah non. Vos joueurs, ils feront tout et n'importe quoi. Ils vous amèneront à leur indiquer qu'il y a ce médecin-là. Et c'est la grande force du JDR, c'est que quand on joue aux petits chevaux, on sait qu'on va d'un point A à un point B, et il n'y a aucune, je dirais, il y a aucune, malgré le hasard, il n'y a aucune liberté de décision quasiment. Alors que le jeu de rôle, c'est ça. On va vous donner un scénar super linéaire, il faudra d'aller de A à B, B à C, C à D. Vos joueurs, quand vous allez leur demander comment ça s'est passé, ils vont dire « Ah putain, comment t'as démonté ton scénar? On a trop pas fait ce que tu voulais. » Bah, c'est faux. Arrêtez déjà. Exactement. Donc, ça enlève vraiment au fait que c'est très intéressant ce que t'as dit, notamment des sprites, mais voilà, c'est pour moi, l'impression de linéarité d'un scénario, c'est assez faux. C'est que on le lit, on est tout seul, et on nous file les informations béquet par béquet. Et donc on a l'impression que ça arrive comme ça. Et finalement, tout scénario... bon, je pense que sur Toc, on vous a donné pas mal de conseils dans les podcasts pour improviser, pour faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, pour machin. Si vous saupoudrez n'importe quel scénar de ça, ça passera. Même des scénars faits par Vonf sur Toc. qui paraît trop... Ouais, je crois que j'en ai commis un ou deux.
On va creuser.
Voir Venise, trois petits points, je crois que c'est de moi ça. Donc, voilà. Enfin, essayez maintenant, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'improvisation, des choses comme ça, ce que tu disais, c'est agissant, c'est poser des PNJ, poser des idées, poser des petites... finalement des voix A prime, des voix A prime prime, des petites voix adjacentes. Mais si vous avez préparé une famille, un cadastre, une bibliothèque, un pharmacien, un bar, un restaurant, deux trois amis, des PNJ principaux, ça y est.
Quoi faire?
Vous préparez trois maisons à visiter, c'est bon. Vous préparez trois quatre nanas derrière des guichets pour orienter vos PJ. Deux trois personnes dans la rue intéressantes à croiser, genre un crieur des journaux et tout ça, et hop, c'est terminé, vous avez votre scénario qui est délinéarisé. Enfin, moi c'est mon idée, je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, bah, ça, je pense aussi qu'il faut bien soigner les situations, il faut bien soigner les situations et essayer peut-être de temps en temps de sortir d'un peu des sentiers battus dans la façon dont on délivre l'information. Et le mieux, enfin, mieux on l'a robé, mieux on l'a mis en scène. Et aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est la perspective qu'on a sur l'intrigue lorsqu'on va récupérer cette information. Quelle est l'attente qu'on va créer quand on va délivrer cette information? Quelle vision on a de l'intrigue et de l'histoire quand on a cette information? Si tu mélanges tout ça, je pense que tu peux détourner, détourner quand même pas mal l'attention des joueurs sur les, sur la, on va dire l'architecture,
ton attention, peu, ouais.
La tuyauterie, la tuyauterie du scénario. En fait.
Typiquement, ils arrivent sur le bureau du PNJ, ils sont en train de fouiller sa chambre. Dans le scénario, c'est marqué qu'il y a une lettre qui n'est pas finie et machin, et c'est ça qui mène à la suite. Eh ben, vous foutez ça dans un tas de papiers. Il a des créances, il a des lettres de relance, il a des mecs qui le font chanter, il est peut-être malade, il a peut-être sa famille qui lui a écrit. Vous foutez ça dans un tas de papiers, vous y pensez un peu avant, et c'est fini, et c'est marre. Parce que les mecs, ils vont peut-être aller voir la famille en se disant, apparemment, il avait des problèmes d'argent et tout. Le truc n'a rien à voir. Mais votre personnage, il passe du personnage qui écrit une lettre et qui la finit pas pour vous indiquer la suite, à un personnage qui vivait sa vie et qui n'a pas eu le temps de finir sa lettre, mais c'était pas pour vous, quoi. C'est, pour moi, la multiplication des petites choses comme ça peut aider à délinéariser, à rendre... Et finalement, on retombe un peu sur une des parties qui était marquée dans le document, c'est étoffer. C'est finalement... là, je rebondis, donc c'est un autre thème, mais sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'histoire. Une histoire, c'est toi qui disais ça, Curtis, je crois que l'histoire, il faut pas qu'elle soit télescopée. C'est-à-dire qu'il faut pas que l'histoire en elle-même soit... Enfin, cousu du fil blanc, c'est-à-dire que dès le début, on sache que le type était un peu fou, qu'il a fait des expériences qui n'ont pas fonctionné, qu'il a tout écrit dans un bouquin. Enfin, je sais pas à quoi tu pensais derrière toi, Curtis, quand tu parlais de ça.
Bah, c'est que ce qui est important, c'est de maintenir l'attente, de maintenir le soit par le sur, soit par le suspense dans l'action, soit par le on va dire l'effet de curiosité, c'est d'essayer de maintenir cet effet de curiosité tout au long du scénario. Et donc effectivement, si tu en révèles trop d'un coup, bah, cet effet de curiosité, il n'est plus là en fait. Tu dois maintenir... Le scénario, il va vers un dénouement, quel que soit ce dénouement, mais en tout cas, tu dois essayer de délayer de façon intelligente et toujours attrayante pour les joueurs le niveau d'information que tu donnes et surtout la perspective que tu donnes sur l'histoire au moment où ils ont telle ou telle information. Et ce qui est intéressant, c'est que... Ouais, vas-y, excuse-moi.
Qu'ils ont pas l'impression de voir la fin dès le milieu. Exactement. Du scénario, quoi. Donc en disant forcément quand on rencontrera le chef de la secte, ouais, forcément ce sera la fin, ouais, tout à fait. D'accord, ouais. Donc là c'est quand même plus complexe, ça demande ce que tu dis, des fausses pistes, des aventures annexes, des choses comme ça.
Et puis de te mettre à la place de ces joueurs, de tes joueurs, ça je pense que c'est un truc vraiment fondamental, c'est de te dire, voilà, mes joueurs ils arrivent là, donc dans cette situation, bon, il peut se passer un tas de choses, mais globalement il y a cette information qui traîne. Qu'est-ce qu'ils vont percevoir de l'histoire? Qu'est-ce qu'ils vont percevoir de l'histoire quand ils se trouveront à peu près dans cette situation? Quelle gueule aura l'histoire? Est-ce que ça va leur donner envie de continuer? Qu'est-ce que je peux faire pour délivrer cette information de façon partielle ou une façon un peu détournée ou un peu particulière qui va leur donner soif pour
la suite? Ouais. Et c'est ce qui est marqué pas mal dans le doc que vous avez noté, c'est étoffer les lieux. C'est-à-dire la maison où ils vont rentrer, ça va être une maison que vous allez devoir décrire. Il y a peut-être, une planche du sol qui est un peu relevée. Il n'y a rien derrière, mais voilà. Il y a peut-être un miroir qui a été brisé. Il y a peut-être mais des choses, voilà, les affaires sont rangées comme s'ils partaient. Ça peut être aussi des trucs à la con. Moi, j'ai vu des trucs à la con, c'est par exemple changer le nom des PNJ. Se retrouver avec des PNJ avec des noms qui vous accrochent plus, des noms un peu sympas, voilà, ouais. Il s'appelait John Whetstone, il va s'appeler Kenyatta Willow, enfin j'ai pas dit des trucs à la con, mais des trucs un peu différents. Là, une très bonne idée aussi, c'est de se dire, pour les PNJ qui sont peut-être un peu lisses et qui ont juste une information délivrée, en faire un boiteux, en faire un bègue, en faire un chauve. Enfin, ouais. Quelqu'un qui a aucune pilosité, enfin, quelqu'un qui a une espèce de tic.
Je veux juste emboîter sur un truc que j'utilise assez souvent, que je trouve assez efficace, hein, libre à vous de voir, hein, c'est le coup des trois mots ou des trois concepts.
C'est ce que tu mettais.
Ouais, sur un PNJ, quand on improvise un truc, c'est de penser assez rapidement à trois détails ou trois mots, même si c'est saugrenu, hein, genre chapeau, verre, cobra. Et de broder derrière pour donner trois aspects qui ressortent de
tu vois, tu
qui
me, font tu
relief
dis,
d'un personnage.
Tu me dis cobra, je pense au mec qui a un tatouage.
Exact.
Ah bah,
mais ça peut aussi
bah,
être un
tatouage,
un
mec c'est
qui
quoi
a un cobra dans une boîte ou un mec qui a un cobra sur son blouson. Un
et
mec,
c'est quoi pourquoi
qui s'appelle cobra. Non mais
et qui a un pistolet.
Je pense à Lilo et Stitch. Hein. Je pensais pas à cobra.
En plus, à mon avis. C'est vraiment des petites choses, mais qui vont décupler le plaisir. Je vois, et faut pas hésiter à être à l'écoute, je vois là même, suite à la publication des masques de Nyarlathotep, il y a eu plein d'idées, notamment sur Rollis TV et tout ça, plein d'idées sur comment jouer certains PNJ. Au lieu d'en faire des personnages un peu lisses, un peu prévisibles, en faire des gens sympas. Le mec qui est censé donner des informations, il va être casse-couille. Le mec qui est pas censé donner d'informations, il va être gentil. Il va vouloir vous dire plein de trucs alors que vous en foutez, quoi. Mais il vous raconte sa vie, il vous dit qu'il y a des gens qui viennent regarder des manuels très souvent dans sa bibliothèque. C'est complètement faux. En réalité, c'est des gens qui viennent travailler, mais c'est bizarre, ces gens, ils prennent toujours les mêmes manuels comme s'ils étudiaient quelque chose. Mais c'est complètement faux, c'est juste des gens qui étudient. Enfin.
C'est tout bête, mais ça nécessite d'y avoir juste pensé un tout petit peu avant, de se dire comment il parle ce gars-là, enfin, de se le figurer, de se l'imaginer, de le visualiser, dire bah voilà, il parle de façon un peu hachée, il regarde pas les yeux dans les yeux, etc.
Des trucs tout bêtes.
Il faut se poser la question.
Des trucs tout bêtes pour relancer, un lieu où il devrait aller est fermé. Pourquoi? C'est marqué travaux, mais quand on regarde à travers la vitre, il n'y a pas de travaux. Bah pourquoi? Enfin, le truc con.
Il y a une méthode qui est aussi assez rapide, c'est de faire appel à son histoire et aux souvenirs marquants qu'on a. On a tous des gens qui nous ont marqué dans des rencontres ou autres, ou des lieux qui nous ont marqué, et c'est d'en prendre un, voire deux, et d'associer des particularismes qu'ils avaient. J'ai rencontré une personne dans ma vie qui avait un défaut de prononciation, qui avait un problème de palais. Et je m'en sers souvent pour interpréter des personnages comme ça en convention, parce que je trouve que l'accent est très marquant. Et on a tous des idées, quoi.
Les accents? Le perso,
Oui,
le
sur
PNJ
les
qui était
accents,
tout
mais
pourri, vous
ça
lui
peut être
mettez
aussi
un
sur les
accent un
marques.
peu allemand, un accent un peu italien, ça peut
Ou le
être
gars qui rit tout le temps. On comprend pas ce qu'il dit, il rit tout le temps. Est-ce qu'il est sous substance? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il sait quelque chose que vous savez pas?
En fait, il faut vraiment donner corps et vie à nos PNJ. Et plus on va les bosser, plus ce sera facile d'improviser aussi avec eux.
Je regardais un reportage là tout bête sur Batman Begins, je crois, ou un truc comme ça. Ben voilà, Christopher Nolan, il a pris quand même un mec en costume moulant en noir, un fils à papa, et il en a fait un personnage sombre, sympa et intéressant. Mais de base, c'est un peu pourri, quoi. Batman, c'est un espèce de type qui adore se déguiser et qui joue les justiciers parce qu'il est plein de thunes. Mais non, voilà, il a rencontré des mecs pervers, il est torturé. Un truc qui marche pas mal aussi, c'est les PNJ qui reviennent sur ce qu'ils ont dit. En disant,
Ah
voilà,
oui.
ils ont donné une info, puis ils font, ah non, non, excusez-moi, oui, est-ce que je vous ai dit hier, en réalité, non, non, c'est la
Ah, c'est
personne qui
énorme
vient,
ça.
en réalité, non, c'est pas cette personne-là. Putain, mais aussitôt vos joueurs, ils vont dire, c'est bon, le focus, elle est sur la première personne.
Énorme.
Et c'est
Et
con parce
puis
que la personne, c'est une intéressance.
ça peut faire des sacrés quiproquos, du type, ouais, c'est lui le grand méchant, et puis il prépare son enlèvement, il l'emmène, ils l'ont en charge de la voiture, et le mec les appelle. Au fait, je crois que c'était pas lui, c'est pas le bon prénom. Qu'est-ce qu'on fait du mec dans le coffre?
Puis voilà quoi, enfin la personne elle s'est débattue donc forcément elle est forcément soupçonnable. Elle a peut-être
Ouais,
quelque
les
chose à
mecs,
cacher.
ils doivent tuer quelqu'un, en fait, ils tuent son frère, en fait, ils se
Horrible!
rendent compte
Ah, oh,
après, ils tuent
l'horreur!
son frère.
Génial! Génial comme idée!
Voire même, c'est le gars qui est complètement innocent, qui est un mec dans le coffre.
Oui, exactement. Ils
Et
prennent une
là, et
voiture en se barrant
la
et.
question, c'est qu'au bout d'un moment, est-ce qu'il est réellement innocent ou pas? Ah,
Exactement.
ça, c'est encore pire, quoi! C'est le pitch du prochain Johann Svar, au passage, où justement,
D'accord.
Lena est dans le coffre, elle a un cadavre, et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, elle commence vraiment à se demander si est-ce qu'elle est réellement innocente ou pas, quoi.
Et sinon, il y a Gone Girl aussi, qui
Très
est
très
pas mal
bon.
en termes de rebondissement.
Très sympa. Donc voilà, donc l'idée, ben finalement, on retombe sur les mêmes choses, mais c'est donner du volume. C'est rajouter des choses. C'était typiquement le point focus des scénarios Casus Belli de la grande époque. C'était un scénar, et à vous de coller des petites briques. À vous de poser des petites choses, on vous donnait des pistes, mais à vous de les exploiter, à vous de rajouter des retournements inattendus, à vous de. Et franchement, enfin, un tout petit retournement, là on vous en a décrit, mais là il y a de quoi faire une dizaine de scénars sur ce qu'on vous a dit au total. Enfin, voilà, un mec qui a un problème de langage. Alors, après, faut peut-être pas tomber dans les trucs trop difficiles, parce que genre un mec qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, bon, ça va être un peu dur à rendre crédible le personnage, enculé. Alors donc voilà. Donc ça va être un
C'est
peu
pareil,
dur.
les accents, c'est fatal, hein, faut bien les faire, sinon
Oui, voilà.
ça
Invariablement,
casse
il tourne au russe.
Très bonne. Moi, c'est souvent allemand. Mais très souvent, c'est très juste, Curtis, c'est si vous rajoutez quelque chose, pensez-y avant. C'est-à-dire, voilà, un mec chauve, ça sera facile. Un accent, ça va être compliqué. Une erreur, quand tu dis un cadavre dans le coffre, là, il faut y penser. Ça s'improvise, mais. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, quoi. Il va falloir vous retomber sur vos pieds. Il faut pas juste avoir balancé ça, genre, je trouvais ça génial, j'ai entendu ça sur Toc. Je trouvais ça trop bon. Et puis là, les joueurs, ils vont dire, mais oui, mais encore. Vas-y, poursuis. Enfin, là, c'est vraiment des idées. Alors, qu'est-ce que je relis sur le. Emprunt, impact de base, étoffer les
À la
lieux.
limite, pour un PNJ comme ça, pas hésiter à être ridicule si le personnage est ridicule, mais à partir du moment où on se dit, voilà, c'est un personnage qui a telle typologie, j'ai l'air sérieux, pas sérieux, normal, etc. Ne pas hésiter à y aller, mais en restant dans le ton du perso.
Et puis c'est
Dans le ton
génial,
qu'on s'est fixé.
le mec ridicule, c'est comme le grand blond avec une chaussure noire. On
Énorme, tu vois pas venir. Hein.
ne pensera jamais que c'est
Pas
lui.
venir. Oui, tu le vois pas venir, ouais, c'est
Le
vrai.
mec il est bègue. Attends, ça peut pas être un sectateur, ça peut pas être le chef d'une secte, il est bègue. Alors que
Énorme, ouais.
tout loup va venir. Non, bah non, voilà. Bah non, bah voilà. Bah si, c'était lui.
Le personnage de Joe Pesci dans L'Arme fatale, le personnage de Joe Pesci dans L'Arme
Exactement.
fatale.
Bah, tu prends aussi. Merde.
Kaiser Soze.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. Je suspecte. Bah voilà. Le mec, il s'en doute pas. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, Sergi, censé de se dire, voilà, on prépare, et finalement, on peut rendre crédible quelqu'un qui ne l'est pas, et inversement, quelqu'un qui est censé être très crédible, on le rend mais complètement con.
C'est les effets de contraste, en fait, ça marche toujours bien, hein, le contraste.
Qu'est-ce que vous avez
Que ce
dit?
soit entre deux scènes, que ce soit entre ce que fait le perso, enfin, ce dont a l'air le perso et ce qu'il est en réalité.
Vous
Les effets de contraste, ça marche toujours bien. Hein.
cherchez la fondation Peignot, Peignoui? Non, pardon, excusez-moi, j'ai pas noté. C'est Edouard Gavigan qui dit ça. Donc,
Un Gavigan.
voilà. Petit rajout, mots-clés, mettre des odeurs dans un lieu, mettre des formes, mettre des couleurs, rajouter des petites choses à côté, inverser. Un truc commun qui devient non commun, un truc non commun qui devient commun. Ça peut être des trucs à la con, dans la description, ça peut être le temps qu'il fait qui va devenir super relou. Votre scénar, il est tout pourri, mais vous le mettez, il pleut tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont laisser des traces par terre, ça veut dire qu'ils vont être trempés, ça veut dire que les torches vont mal marcher, ça veut dire qu'il va y avoir des coupures de courant, enfin, bon. Rajouter des choses, finalement, de la vie de tous les jours, à la limite des choses qui vous cassent les couilles ou que vous aimez bien, et posez-les dedans. Et c'est ce qu'on mettait aussi, après, dans les autres idées, c'est le scénar, il se déroule dans un lieu que vous aimez pas. Déplacez-le. C'est comme un PNJ. Le PNJ, vous le trouvez
Bah,
nul.
dès
Vous
lors que
trouvez...
ça fait du sens, en fait, ce qui est important, c'est de
Oui.
rajouter des éléments qui font du sens, qui font des connexions, en fait, qui font des connexions, ouais, de sens, que ce soit entre l'ambiance, les thèmes, l'intrigue, les PNJ, plutôt
L'intrigue, ouais.
Voilà, des lignes qui fassent sens, en fait, des lignes de cohérence qui fassent sens, qui se fassent écho.
Et puis pour
Trouver
transporter son.
ouais, excuse-moi.
Non, je t'en prie, termine ton idée.
Non, je disais simplement, voilà, créer une espèce de cohérence interne au scénario, en fait.
Ouais, ou le conserver, ouais.
Ouais,
et la
Et
différence.
vas-y, vas-y.
Ah, vas-y, là, là.
Oui,
Non,
non,
je
ce
disais
que je
à la
voulais dire,
limite,
pardon.
aller sur
Pas mal.
importer son propre vécu. C'est par exemple un gars qui est particulièrement détestable, etc. On a un collègue qui toute la journée nous a bâché, nous a critiqué, etc. Ben, ressortir ça. En plus, ça fait du bien.
Et on est vachement crédible.
Ouais,
Mais
voilà, c'est
c'est ça le pire, c'est qu'en fait, quand on apporte son propre vécu, on est sérieux quand on le fait. Même si c'est une grosse connerie, on apporte quelque chose qui fait que les autres vont nous croire.
Ouais. On va être
Et alors, ça,
limite
c'est super
énervé quand on
important.
décrit, ouais. On
Exact.
va
Et dans
donner
l'ensemble, la
pour.
crédibilité, c'est super important, ce qu'on appelle l'effet de réel, c'est que c'est ce qui va donner, c'est la petite touche, le petit détail, le truc qui a l'air de rien, qui a l'air de servir à rien, mais qui fait, en fait, qui donne cette espèce de suspension de l'attention des joueurs. Enfin, les joueurs
Ouais.
oublient un petit peu ce qu'il y a autour, en fait. C'est pour moi, c'est vachement intéressant,
Je
vachement
comparais
important,
assez
ça.
ça au jeu, enfin au GN ou au semi-réel, pour ceux qui en ont
Exactement,
déjà
oui.
fait, où souvent c'est le petit détail dans le costume qui va faire sa réussite, alors que le mec peut être habillé avec une grande bâche et des couleurs chatoyantes.
Il a un
Le
monocle.
gars, il a un super monocle et des lacets de chaussures et des boucles de chaussures qui sont fantastiques. Et bon, si c'est très caricatural, ça passe pas. Mais quand t'as un costume qui est vraiment passe-partout neutre, mais avec un ou deux détails qui sont vraiment marquants,
Convaincant.
t'as cet effet de réalisme, comme tu le dis. Et ce qu'on a sur le semi-GN, enfin les GN, bien sûr, on le retrouve dans le JDR. Ouais.
Mettez-vous à la place de vos joueurs et rajoutez des détails. Regardez les personnages qui vous ont marqué dans des films, dans des BD et tout ça. C'était toujours des gueules, c'était toujours de ce que tu dis, des gens qui avaient des marottes, des gens qui avaient des expressions fétiches,
Ouais, des
des
expressions.
gens qui arrivaient toujours avec la même musique dans le film, des gens
En
qu'on voyait
sifflant.
très peu en sifflant, voilà. Mais des trucs relous, quoi. Ça peut être tout à fait exactement un flic dans le scénar qui a aucun intérêt. Si à chaque fois il siffle un putain de truc et qu'il est toujours là au mauvais moment, ça va devenir un vrai PNJ. ça va devenir intéressant.
Il va faire des origami.
Oui. Ah ouais, le mec a une passion un peu horrible. Un peu stressante, quoi. Ou alors, dès que tu lui parles, il fait... Excusez-moi, attendez, je finis le pliage. Merci.
Excellent.
Oui, oui. Alors, attendez. Ou alors, le, ouais, enfin, ou le mec, il... enfin, ça peut être des trucs cons.
Éthique.
Typiquement, vous avez un collègue qui retient pas les noms. Imaginez un PNJ qui retient jamais les noms de vos PJ, quoi. Oui, alors Mike, non, Michael, pardon, oui. Donc Michael, oui, vous m'avez dit que vous étiez pas là au moment du meurtre, mais ce qu'a dit John, eh bien, le mec relou, et pourquoi il se rappelle pas? Enfin, au bout d'un moment, c'est soit, et puis en plus vous en jouez, parce qu'ils vont se dire, ah, c'est une marotte du gardien, puis au bout d'un moment, si vraiment vous poursuivez, ils vont dire, c'est bizarre quand même que ce mec-là, il nous confonde, et puis il donne une liste de noms qui sont toujours les mêmes. Il te confonde, toi, toujours avec John. Pourquoi? Enfin, après, vous pouvez échafauder, et puis vos joueurs vont échafauder des trucs, parce qu'ils savent que vous êtes pervers, parce que vous êtes sur TOC, et que vous avez des idées débiles.
Ça me fait penser à une théorie dans l'écriture de romans, de scénarios, quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a jamais rien d'inutile. C'est-à-dire que dès qu'on commence à décrire, c'est-à-dire vous rentrez dans un bar, et vous voyez, il y a le barman qui est comme ça, il y a deux ou trois personnes, il y en a un qui est comme ça, de suite, les joueurs savent vers qui aller. Si au contraire, on commence à donner de l'importance à des détails qu'ils n'en ont pas, les joueurs vont aller vers ces détails, même s'ils n'en ont pas. Tout simplement parce que nous, on leur a donné de l'importance.
Quand les citants, les
citants. Faire des parties des départs de fil, qui, pareil, vont casser aussi en les amenant sur des intrigues annexes.
Typiquement, si vous voulez voir pour moi ce qui est un des sommes du descriptif, vous prenez du Isaac Asimov. Vous n'êtes pas obligé de vous faire tout, hein. Vous en prenez un au hasard, genre dans les cavernes d'acier et tout ça. Ce mec-là a écrit ses bouquins dans les années 50, hein, si je me trompe pas. 50, 60, ouais, je pense. 50, non, c'est ça?
60.
60. Lisez-le, vous avez l'impression qu'il va décrire des trucs de maintenant. Il va vous parler de boutons, de désintégrateurs, d'atomiseurs à la place des poubelles. Il va vous parler d'écrans luminescents. Enfin, il utilise des mots. Franchement, c'est impressionnant. Ça fait hyper actuel. Alors que il savait même pas que les téléphones portables allaient exister. Donc l'aspect descriptif est vital. Franchement, vous arriverez jamais à mettre la même image dans la tête de vos joueurs, ça c'est pas possible. Mais par contre, il faut que chacun ait une image. Moi je me rappelle que quand j'ai débuté au jeu de rôle, j'avais fait 2-3 fois le test, faites-le si ça peut vous aider. Vous faites une description quand les gens rentrent dans une pièce, et là vous demandez à chacun séparément de vous décrire la pièce. De vous dire voilà. Pour moi, dis-moi où est le lit, dis-moi où est la cheminée, dis-moi où est la... Décris-moi la pièce. Vous allez voir, vous allez être surpris. Oui, alors il y avait un escalier en colimaçon. Hein? Mais non, pas du tout, il n'y a pas d'escalier. Oui, donc la cheminée était allumée. Mais là, je vous ai pas dit que la cheminée était allumée. Enfin, faites l'exercice. Franchement, vous prenez un petit scénar à one shot, vous décrivez, et quand vous faites la pause pour bouffer, boire du pchit orange et manger des pépitos, vous prenez les gens un par un, rapidement comme ça, et vous leur demandez, pour savoir où vous en êtes, décris-moi la scène. Décris-moi la pièce où vous êtes. Les couleurs, les... Et franchement, c'est un bon exercice pour voir si... déjà, un, pour voir ce que vos joueurs notent. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, c'est une pièce carrée de 3 mètres sur 4 mètres. Je rate, j'ai fait un plan. Il y a des gens qui vont vous dire ça, et il y en a qui vont vous dire, je sais pas trop, ça va être une chambre. Ouais. Ouais, peut-être du parquet, ça a dû grincer. Mais voilà, et c'est assez intéressant comme exercice, honnêtement. Je sais pas si vous l'avez vous déjà fait.
Je suis très adepte de ça quand je suis en campagne, en début de scénar. C'est-à-dire, début de partie, on a tous le joueur qui était pas là à la séance d'avant.
Le résumé.
Début de partie, c'est, bon, les gars, où est-ce qu'on en est exactement? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière?
Et là, en fait, on se rend compte que chacun a fait des trucs différents.
Ouais, il faut à tout prix que je vous raconte comment
c'est exactement ça. Et chacun va noter en fait ce qui lui est important, mais c'est peut-être pas forcément ce qui nous est important pour nous. Et là, on se retrouve sur des choses complètement.
Vous vous retrouvez avec une liste qui correspond pas du tout au scénario.
En deux mots.
Et puis avec un joyeux mélange de subjectif et d'objectif qui est toujours
ouais.
à mourir de rire.
Nous,
parce que le mec, il note qu'il comprend, mais pas ce qu'il entend. Et c'est...
nous, on a très codifié ces moments, c'est-à-dire qu'au début de notre campagne, on fait systématiquement un résumé. Et il y a une personne qui peut se désigner volontaire ou sinon tire au dé en se moquant de lui. Et ensuite, alors la règle, c'est qu'elle a le droit de dire absolument ce qu'elle veut pendant le résumé sans être interrompue. Elle peut très bien dire, et à ce moment-là, des schtroumpfs sont apparus en se téléportant et inventer n'importe quoi. Donc du coup, elle peut punir ses camarades à table en disant, et lui, très lâcheux, de manière très lâche, c'est complètement débiné, et moi, dans ma superbe, voilà. Et il fait tout le résumé sans être interrompu. Et à la fin, les joueurs peuvent rétablir un peu la vérité, faire des commentaires ou des rajouts.
Ça, mais, peut, ça peut être pas mal, parce que genre, oui, et puis il a trébuché en sortant de la maison, et depuis, ouais. il boite, il a dû se faire mal à la cheville. Et ouais. le mec, il est obligé de boiter pour avoir du scénar.
Mais,
c'est pas mal comme idée, ça.
La règle d'or, c'est que je ne les aide jamais. C'est souvent, il y en a un qui me regarde, il me fait « Mais alors la fille, finalement, elle était avec eux ?» Et je les regarde et je leur fais toujours la même réponse, qui est « Oh, écoute, je sais pas, j'étais pas là. » Et ce qui est dingue, c'est que ça fait des années qu'on joue ensemble, mais il y en a toujours un pour me le demander. Mais il s'appelait comment
avec,
déjà le frère du.
Avec
du
une truffe humide avec des yeux et des humides de petits chiens.
Bah, allez, vas-y.
C'est une institution qui est super rigolote, le résumé de début de partie.
Bon, messieurs, il est 23h17. Je pense que pour ouais. cette première partie de podcast, on a quand même fait pas mal le tour des premiers éléments. On a parlé de bah, qu'est-ce qui était un scénar qui pouvait ne pas nous plaire, comment finalement lancer les choses, comment étoffer les choses, essayer de les rendre un peu moins linéaires, essayer de les rendre un peu plus bac à sable, essayer d'étoffer, de rendre des choses inintéressantes intéressantes, de rendre des choses intéressantes inintéressantes, finalement de prendre, pas toujours, mais assez fréquemment, le contre-pied de vos joueurs, de rebondir sur les bonnes idées. Il faut savoir que dans tout ce qu'on vous dit, là, c'est les idées que vous avez, mais très souvent, le fameux « bon, bah, qu'est-ce que vous faites ?» c'est la porte ouverte à vos idées. Ils sont tous là en train de se parler. « Non, mais je vous écoute, mais de loin. » Mais enfin, je pense qu'on a déjà pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Sergissant, pour toi, on a quand même fait le tour de ces thématiques-là.
C'est vrai qu'on a abordé pas mal de choses et c'est un sujet qui est tellement vaste de couper une linéarité d'un scénario. En fait, il faudra presque quasiment un podcast sur dire qu'est-ce qu'un scénario linéaire. Et non, mais c'est vrai.
Oui.
Et c'est vrai que là, on a des idées, mais je pense qu'on a dit celle qui ressort rapidement et qui revient tout le temps, c'est quoi qu'il se passe, surprendre.
De ton côté, Curtis?
Ouais, bon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour moi, le maître mot, c'est comprendre ce qui va maintenir l'intérêt et la curiosité des joueurs tout au long de l'histoire. Que ce soit en utilisant des artifices ou que ce soit en leur donnant un surcroît de liberté, hein, comme peut. Le suggéré des sprites, c'est ça, c'est maintenir l'intérêt jusqu'au dénouement, en fait.
Des sprites, de ton côté, le bilan de cette
c'est
première...
d'accord avec Sergi et Curtis sur le fait que ça reste très riche. Moi, il y a plein de choses dont j'aurais adoré parler, mais effectivement, on ne va pas faire des podcasts qui durent 20 ans, et puis on en garde un peu sous le pied pour une prochaine fois. À titre de mini-conclusion, je dirais, quand un scénario vous plaît pas, essayez toujours d'y mettre du vôtre et de rapporter quelque chose qui vous est personnel, parce que ça va toujours être plus facile à retenir, plus facile à faire jouer. Et quand je dis du vôtre, je parle aussi de vos joueurs, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils attendent, et servez-leur une bonne soupe, faites toujours quelque chose de personnel, voilà.
Et je compléterai juste, parce que je suis d'accord, je compléterai juste par lancez-vous. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il va être linéaire, vous avez l'impression qu'il va pas être intéressant, faites gaffe. Il y a 95% de chances que ce que vous pensez, ce que vous allez improviser, ce que vont vous dire vos joueurs vont le rendre intéressant. Donc, même les scénars que vous allez avoir, même sur un site comme Toc où on met scénar un peu linéaire ou quoi que ce soit, si on le met en ligne, c'est pour une bonne raison. C'est que pour peut-être 80% des gens, il va être dément. Et que pour 20% des gens, peut-être parce qu'ils sont pas en forme ce jour-là, qu'ils ont pas envie d'improviser, ou qu'ils improvisent un mauvais truc, ou que leurs joueurs sont pas dedans, ça va mal se passer. Mais Il y a quasiment pas de scénario finalement linéaire si vous vous débrouillez bien, si vous avez une équipe sympa et si ça marche bien, quoi. Donc on va vous donner rendez-vous pour un prochain podcast, peut-être d'ailleurs autour des problématiques méta-jeu, hors-jeu, méta-hors et jeu-jeu, de gameplay instantané narrativiste, tout autour de ça.
Essayez de contenir vos quand on va parler de narrativiste.
De le fait est que vous ne le savez pas encore, mais normalement nous allons l'enregistrer d'ici 2 jours, hein, c'est ça, on se refait une passe jeudi, on verra si on a d'autres d'autres sujets à traiter. Mais voilà, je pense qu'on a posé des choses, comme d'habitude, c'est pas la science infuse, mais je pense qu'il y a 4 à vous lâcher, tout ce qu'on vous lâche pendant plus d'une heure. Vous avez de quoi extraire. Un jour ou l'autre, il faudra que j'essaie de trouver un truc qui transforme nos dires en texte, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir une retranscription écrite. Bon, pas de tout, hein. Tout n'est pas intéressant.
En plus, c'est marrant parce que c'est les trucs automatisés, comme ça donne des trucs un peu rigolotes.
Voilà,
carrément. Comment ça, contraceptif avec...
C'est une bonne idée dans un scénario. Donc voilà, et puis ben sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, et n'oubliez pas, hein, libérer, délivrer, avant toute chose, et puis ben Fungui les poulpes.
Fungui.
Bon bah ben, super, le petit blanc qui va bien. Bon, je parlais pas du vert. Bon ben, messieurs. Today we are canceling the apocalypse.